18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, bonjour. C'est reparti. Eh bien, oui, c'est reparti. C'est la reprise pour une toute nouvelle année. D'abord, chers amis auditeurs, je vous souhaite une excellente, une belle et heureuse année et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous plus que jamais et toute l'équipe de Beurre FM vous souhaite aussi une très très bonne année. C'est parti pour cette nouvelle année 2023 et vous le savez plus que jamais, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. Oui, c'est ici que ça se passe et vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre qu'il va falloir ici livrer votre point de vue de 18h à 19h30. Alors au sommaire de cette émission, ce que je vous propose tout simplement, eh bien, pour démarrer cette toute nouvelle année, c'est d'aller direction l'interview avec le docteur Majid Soussine parce qu'on voudrait comprendre la colère des médecins qui reconduisent leur mouvement de grève, mais également aussi, vous savez quoi ? Eh bien, également, il y a un malaise dans les hôpitaux, les urgences qui sont évidemment où on parle d'un cri d'alarme de plus en plus concernant le personnel soignant. Il y a des arrêts en cascade d'infirmières. Les hôpitaux de Paris souffrent en ce moment. À 18h15, c'est vous qui avez la parole au 01 53 48 3000. Eh bien oui, vous venez, vous commentez l'actualité tout simplement ici même, vous le savez. Deux sujets que je vous propose. D'abord l'électricité qui grimpe, l'électricité qui pose problème. Venez en parler au 01 53 48 3000. Et puis je vous propose aussi de nous parler d'un autre sujet. C'est celui, eh bien tout simplement, d'abord vous pouvez choisir votre sujet, il n'y a aucun problème, hein, vous êtes les bienvenus. Il y a Michel Houellebecq et l'islam d'acier et ses propos polémiques concernant, vous le savez, eh bien tout simplement, la République n'est pas compatible, paraît-il, que les musulmans, voilà, hein, ils ont un problème avec la République. Clochette. Eh bien, on va en parler avec vous, 01 53 48 3000. Allez, et ensuite, après le face-à-face qui est attendu tout à l'heure, vous le savez, avec un élu, qui vient ici livrer son point de vue et clasher certainement, ou peut-être certainement, tout simplement, confronter son point de vue avec un ancien élu, ici même sur ce plateau. Donc, deux regards différents, mais deux regards aussi qui vont parler de Michel Houellebecq, de Dacier, Jean-Claude Dacier, les propos polémiques sur CNews. Et bien sûr, Michel Houellebecq et ses propos aussi, et le malaise, 20 ans de polémique avec lui, rappelons-le. Les vœux, on reviendra sur les vœux d'Emmanuel Macron, parce que lui aussi, il a soulevé quelques polémiques, on en parlera tout à l'heure avec nos débatteurs. Voilà ce que je vous propose, et on est ensemble jusqu'à 19h30. C'est parti pour cette nouvelle année.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour, pour démarrer cette semaine.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec le docteur Majid Soussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonjour, monsieur Farkan.
Tout d'abord, une excellente année, bonne heureuse et année à vous et tout ce que vous entreprenez.
Merci, mon cher. Merci beaucoup. La même chose pour vous et pour tous les auditeurs de Beurre FM.
Absolument. Je sais qu'on vous retrouve mercredi, de 18h30, encore cette année. Hein. On remet ça ?
Avec plaisir, bien sûr. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Moi, je reste un éternel grand-enfant.
Vous avez bien raison. C'est comme ça qu'on... Il paraît-il qu'on... Que... Voilà. Hein, la longévité. Voilà. Dites-moi, mon cher docteur, vous êtes notre invité ce soir dans Les Informés. On démarre cette toute nouvelle avec vous. Et je voudrais qu'on revienne, vous savez, sur, tout simplement, cette colère qui commence à prendre forme. Les médecins qui reconduisent une nouvelle grève historique. De quoi s'agit-il précisément ? Est-ce qu'on peut revenir sur cette situation qui inquiète beaucoup ?
Eh bien là, il s'agit de la grève des médecins libéraux, qui sont donc les médecins qui exercent en ville et qui luttent pour une meilleure revalorisation de leur consultation, dont le tarif est plafonné à 25€ depuis bien longtemps. Sans majoration. Il y a aussi la grève des biologistes qui vient s'ajouter au se greffer au mouvement, puisque le gouvernement a décidé de ponctionner une partie de leurs gains. Il faut savoir qu'ils ont fait des gains assez importants dans le cadre du Covid, mais ces gains étaient aussi liés à l'épidémie, mais ont été générés aussi par le fait qu'il y a eu des gros investissements pour acquérir des machines, recruter du personnel, payer des heures supplémentaires. Et ils trouvent un petit peu mauvaise, après qu'on leur ait demandé de faire des efforts, qu'aujourd'hui on leur demande de remettre au pot sur les sommes qu'ils ont pu gagner. Ça traduit assez bien le malaise de la profession.
Le malaise, justement, quelles sont les solutions proposées par le gouvernement ? Il s'agit de quoi précisément ? Parce que cette colère, tout simplement, reconduit un nouveau mouvement de grève cette semaine. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes, mon cher docteur Soussine ?
Eh bien, il faut savoir que, par exemple, les médecins généralistes demandent une revalorisation de la AG, donc de la consultation, du tarif de la consultation à 50 euros. Il est assez certain que l'assurance maladie ne concédera pas une telle augmentation, ce qui reviendrait à une augmentation x2 du montant de la consultation actuelle qui est fixée à 25 euros. Et probablement qu'il y aura une revalorisation de la consultation parce qu'elle n'a pas été revalorisée depuis 7 ans et que le montant de 25 euros apparaît quand même ridicule quand on connaît le prix d'une coupe chez le coiffeur. Mais ça sera sûrement pas 50 euros. Alors, certaines plateformes syndicales demandent qu'on différencie les consultations, et ce qui me semblerait quand même relativement juste, puisqu'il y a de la consultation tout venant, tout banale, qui prend 5-10 minutes et qui concerne des problèmes de santé qui sont pas très importants. Et en revanche, il faut quand même mesurer que dans le système de santé français, dans le mode de rémunération, on ne rémunérerait pas correctement le médecin qui fait bien son travail. Parce qu'un médecin qui prendra du temps pour vous n'a aucun intérêt à le faire, parce qu'il sera payé de la même manière que s'il le fait en 5 minutes. Et donc, il faudrait être quand même capable d'arriver à faire un distinguo entre des consultations longues, complexes, qui font appel à la ressource intellectuelle, des efforts, des interrogations auxquelles il faut répondre et qui devraient être payées un peu plus cher que la consultation tout venant. Et c'est probablement sur ça que peut se faire la négociation, à mon avis.
Dites-moi, mon cher docteur, justement, cette triple épidémie, c'est aussi cette grève des médecins, sauf qu'aujourd'hui, vous savez que le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous s'allonge. Eh bien, est-ce qu'on peut, évidemment, avec cette nouvelle semaine de fermeture, est-ce qu'on peut s'inquiéter, mais surtout, faute de réponse, on l'aura compris, du gouvernement, mais aujourd'hui, concrètement, cette triple épidémie, elle sature les services d'urgence et les lignes de SAMU, vous le savez.
Oui, alors les services d'urgence sont saturés depuis bien longtemps. Hein. Ça fait des années que les services d'urgence sont saturés. Il y avait des périodes d'accalmie à certaines périodes de l'année, les grandes vacances, les moments fériés, où c'était un peu plus calme. On savait qu'au mois d'août, c'était quand même plus calme. Aujourd'hui, c'est en permanence saturé. La saturation, elle est polyfactorielle, elle a été bien étudiée. Hein. Elle est due au fait qu'il n'y a plus suffisamment de médecins en ville, qu'il y a encore moins de médecins dans les périodes qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire après 19h, après l'heure de fermeture des cabinets, les jours fériés, les vacances scolaires, les mercredis. Et à ce moment-là, on se reporte vers les urgences. Cet encombrement est dû aussi au fait que les malades restent plus longtemps aux urgences, faute de lits dans les services, puisque beaucoup de services n'ont plus autant de lits qu'ils en avaient auparavant, faute de personnel. On a vu des démissions en masse de personnels paramédicaux. Et puis, c'est aussi la conséquence d'un mouvement historique répété sur plusieurs années, d'une politique continue de fermeture des lits pour essayer d'encourager l'ambulatoire et faire des économies. Donc, la saturation des urgences est très importante. Oui,
vous me permettez une belle transition, docteur Majid Soussine, justement aux urgences des hôpitaux. Notamment, on parle de Creil avec un préavis de grève qui a été déposé le 7 janvier 2023. C'est donc dans quelques jours. Dites-moi, en cause, vous le savez, c'est le manque de personnel soignant et de lits qui se traduisent tout simplement par cette longue lassitude, hein, une détresse psychologique notamment. Et puis surtout, on annonce des arrêts en cascade d'infirmières, mon cher docteur. Peut-on ?
Oui, allez-y. C'est une forme de protestation qui est assez légitime et qui se comprend bien. Les arrêts, ça...
Sauf que là, ma question est simple. Est-ce que là, on tire la sonnette d'alarme ?
Ben je crois que la sonnette d'alarme, elle est tirée depuis longtemps, et que la cloche, elle vrombit depuis longtemps, mais que pas grand monde ne l'entend. Je considère, pour ma part, que les arrêts de travail sont moins graves que les démissions, parce que les arrêts de travail, c'est un signal, c'est-à-dire c'est un dernier avertissement. Si vous ne faites rien, je m'arrête. Si vous ne faites rien la prochaine fois, je m'en vais. Donc je pense que ces arrêts de travail doivent être perçus comme le dernier avertissement avant la démission, et les démissions en cascade qui conduiront à de nouvelles fermetures de lits.
Vous l'avez vécu vous-même à l'hôpital Sainte-Camille l'année dernière, justement. Vous nous avez parlé régulièrement, ici même sur cette antenne, dans les informés, de lits fermés, d'infirmières, justement, avec ces arrêts à répétition, à répétition. Alors dites-moi, parce qu'aujourd'hui, les urgences sont vitales, hein, mon cher docteur, mais concrètement, aujourd'hui, j'ai bien entendu ce cri d'alarme, mais est-ce que, je vous pose clairement la question, les hôpitaux sont en souffrance ?
Les hôpitaux sont au-delà de la souffrance. Les hôpitaux sont très, très, très malades. Je pense que les Français ne se rendent pas compte réellement de ce qui se passe à l'intérieur. Les hôpitaux sont extrêmement malades. On voit des choses qu'on aurait... Si on m'avait dit il y a 10 ans que je verrais ce que j'ai vu dans les hôpitaux français, j'aurais dit que c'était du complotisme, que c'était de la politique fiction. Malheureusement, les pires cauchemars sont en train d'arriver. La qualité des soins baisse, la façon de traiter les patients baisse, le service rendu baisse, malgré la bonne volonté de nombre des personnels qui sont encore très engagés, mais à l'impossible, nul n'est tenu.
Moi, docteur, justement, les hôpitaux, on l'a dit à plusieurs reprises, sont en souffrance. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut parler alors, deux questions dans l'une. Est-ce que les services sont au bord de l'effondrement ou est-ce qu'on y est là, ça y est, en 2023?
Fort heureusement, tous les services ne sont pas au bord de l'effondrement, mais il y a déjà des services qui se sont effondrés. On sait que les services d'urgence se sont effondrés. Aujourd'hui, on a assisté à des démissions en masse de praticiens et de personnels paramédicaux des services d'urgence. Il faut savoir que nombre de services d'urgence fonctionnent grâce à l'intérim, un intérim qui est extrêmement coûteux, et qu'aujourd'hui, par exemple, pour un praticien hospitalier, il est plus intéressant de faire de l'intérim que de prendre un poste fixe dans un établissement, parce que vous serez mieux payé, vous travaillerez moins, et vous choisirez les endroits et les conditions de travail.
Ben, ça ne me rassure pas du tout ce que vous me dites, parce que la situation, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, dans certains hôpitaux français, elle devient critique, vous l'avez dit. Donc, c'est vos propos. Hein. Aujourd'hui, 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie dans certains, dans certaines régions et dans certains hôpitaux. Les urgences, ils sont complètement paralysés aujourd'hui, mon cher docteur.
Oui, tout à fait. On est dans une situation catastrophique, surtout, notamment en ce qui concerne les urgences. Mais les urgences, c'est la partie visible parce que c'est la porte, donc on la voit tout de suite. Quand la porte est délabrée, on la voit. Mais il faut aller voir à l'intérieur des services et se rendre compte que le mal-être est très important. On parle très peu de la psychiatrie, mais la situation de la psychiatrie est catastrophique. Où certains grands hôpitaux psychiatriques de renommée ont vu partir tous leurs psychiatres. Où certains secteurs de pédopsychiatrie, par exemple, n'ont quasiment plus de pédopsychiatres pour s'occuper des enfants et des adolescents, alors qu'on sait parfaitement que la jeunesse est en détresse et en douleur. Les urgences sont dans une situation catastrophique, c'est vrai, mais c'est la partie la plus visible, parce que c'est celle qui est, à laquelle tout le monde est confronté en premier recours. Mais les autres services souffrent énormément aussi.
Je me souviens, vous aviez rédigé une tribune qui est parue dans le journal Le Monde, où vous aviez justement vous-même fait part d'un cri d'alarme, d'une inquiétude, d'un effondrement des hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, docteur Majid Soussine, que le gouvernement capte le message? Est-ce que, alors, soit il capte le message ou alors il est complètement dépourvu de moyens?
J'ai bien peur que il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que les choses sont dans la situation dans laquelle elles sont, mais j'ai l'impression que malheureusement le gouvernement n'a pas les moyens de réagir et n'a pas trouvé le bon chemin encore pour trouver rapidement les solutions, parce qu'il ne peut pas, parce que c'est très compliqué d'effacer d'un coup d'éponge le résultat de 20 ans de politique sanitaire défaillante. Il est très difficile d'effacer d'un coup d'éponge des errements sur le numerus clausus qui ont fait qu'il n'y a plus de médecins en France. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins en France, on va chercher des médecins au Maghreb, en Afrique, en Europe de l'Est. Il faut savoir ce qu'était l'école de médecine française, il faut savoir ce qu'était le système de santé français. Ça fait 30 ans qu'on est obligé d'aller chercher des médecins à l'étranger, qui sont des médecins de qualité et qui rendent service. Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. C'est une bonne immigration, ça. Et la France est réduite à ce genre de choses, avec en parallèle un pillage inacceptable des cerveaux de pays qui sont déjà très très défavorisés.
Et rappelons aussi que les jeunes médecins, justement étudiants, rappelons qu'elles sont longues et elles sont complexes, les études. Hein.
Bien sûr, les études sont très très longues. Il faut au minimum 10 ans pour former un médecin. Donc aujourd'hui, on a fait sauter le numerus clausus, mais ce numerus clausus aboli ne fera sentir ses effets que dans une dizaine d'années. Donc il va y avoir quand même 10 années très difficiles, sauf si on importe en grande quantité des médecins venant de l'étranger, si on fait de la délégation de tâches en utilisant des infirmières à qui on donnera des compétences qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, si on utilise des paramédicaux, ce qui peut se faire, pour remplir certaines tâches occupées jusque-là par les médecins. Mais ce ne sera toujours que des pis-aller, et les Français, on pourra leur raconter tout ce qu'on voudra. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui a bien changé et que quelque chose est pourri au royaume de la santé en France.
Merci docteur Majid Soussine. Dernière question, comment voyez-vous évidemment dans les mois à venir l'avenir des hôpitaux?
Écoutez, j'ai bien peur que ça ne tangue un tout petit peu, qu'on soit plutôt sur une mer très agitée que sur une mer calme. Et c'est pour ça qu'il faut que nos concitoyens soient indulgents, patients, et qu'il n'ait pas de recours inutile, notamment aux services d'urgence, qu'on revienne à des réflexes qu'avaient nos mamans et nos grand-mères. On n'emmène pas son enfant aux urgences parce qu'on a de la fièvre depuis quelques heures. On attend, on prend du Doliprane, on réfléchit, on peut appeler le 15 pour prendre des conseils, et on ne cherche pas forcément une solution immédiate pour avoir une solution médicale comme on commande une pizza. Ouais. La santé, c'est un peu différent quand même.
Immédiate et dans l'urgence, absolument. Vous avez bien raison de le rappeler, mon cher docteur Majid Soussine. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle que vous êtes êtes notamment, vous nous livrez des billets d'humeur chaque mercredi à partir de 18h30, ici même. Donc un mercredi à 18h30, hein.
Avec joie, à bientôt Adil.
Merci de nous avoir accordé cette interview consacrée donc, vous savez, à ce mouvement de grève. Merci Dr Majid Soussine. Mais également, je voudrais ouvrir l'antenne, on marque une pause. Au 0153483000, chers amis auditeurs, c'est parti, nous allons parler du prix de l'électricité, mais surtout nous allons parler, vous savez quoi ? Eh bien de la polémique. Alors, il paraît que les musulmans ne sont pas la République, les musulmans ne peuvent pas s'adapter à la République. Ou l'inverse, enfin vous. Vous nous dites, 0153483000. Vous savez cette polémique qui a été lancée par justement Jean-Claude Dacier, chroniqueur sur CNews, et disait que les musulmans, eh bien tout simplement, ça a provoqué des propos, des polémiques qui l'ont dépassé d'ailleurs, hein, la chaîne au point où elle s'est désolidarisée de Jean-Claude Dacier. Eh bien je vous laisse venir réagir ici. Est-ce que vous pensez que musulmans et république, ça va pas ensemble ? Franchement, non mais... Bon, Dacier, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. 0153483000. À tout de suite, on vous attend sur l'antenne et on parlera aussi de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq et l'islam. 20 ans de polémique, chers amis. Ça aussi, je voudrais qu'on en parle. 0153483000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h20, si vous venez de nous retrouver, allez, c'est parti, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, j'ouvre l'antenne justement. Je voudrais vous entendre. Les musulmans s'en foutent de la République. Ça, c'est les propos de lancés sur CNews, justement, par Jean-Claude Dacier, qui est chroniqueur, et qui dit que ça a provoqué une énorme polémique. Vous le savez, vous êtes au courant quand même que ça a provoqué une énorme polémique au point où même la Grande Mosquée de Paris, les institutions musulmanes, tous ont réagi. Tous. Non, mais qu'est-ce que. Comment ? Moi, ce que je comprends pas, chers amis auditeurs, c'est que comment on peut laisser un chroniqueur sans que les autres autour du plateau ne réagissent ? Je veux dire, les autres, ils étaient là, ils étaient présents, les autres chroniqueurs sur le plateau. À un moment, moi, si j'avais été sur le plateau, je l'aurais arrêté, je leur ai dit, mais attendez, monsieur Dacier, vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. Les musulmans s'en foutent de la République. Vous imaginez la violence de ces propos ? C'est quand même invraisemblable. C'est ça qu'on laisse passer. Je ne comprends pas. Je voudrais qu'on en parle. 0153483000. Faites péter le standard. Je vous attends partout en France. Bienvenue. Allez, c'est parti, on va accueillir Laïla de Montpellier. Laïla, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonne année, Laïla.
Bonne année, meilleurs vœux, la santé surtout.
Absolument, ma chère Laïla. Alors, les propos comme ça, comment on peut laisser des propos aussi libres sur une chaîne de télévision d'info ?
Ben, c'est complètement ahurissant, mais bon, aujourd'hui, en France, tout peut se dire, tout est interprété. Moi, mon avis... c'est que la France, rappelons-le, est une république laïque et démocratique, et quelle que soit la religion que l'on a dans le cœur, les musulmans, bien sûr, sont compatibles avec la république française.
Vous dites qu'elle est compatible, on est d'accord quand même, c'est quand même inquiétant. Ah, Laïla.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends un peu de au loin. Ça va, Laïla ? Là, il faut qu'on... Laïla a un problème de connexion. C'est pas grave, Laïla, hein. Vous pouvez nous rappeler au 0153483000. 0153483000, ça, je veux qu'on parle, hein, qu'on prenne le temps d'échanger, vous et moi. Justement, au 0153483000, les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas ce que ce... le contraire, ce soir. Il paraît que vous, musulmans, vous ne savez pas ce que ça veut dire le mot République. Le mot, vous vous rendez compte, ils ne savent même pas ce qu'il a tenu, hein. C'était il y a une semaine, hein. Il a dit exactement, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Et ben moi je vous pose la question, chers amis auditeurs. Alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot république ? Les musulmans ne savent pas ce que ça veut dire. Donc il va loin, il dit qu'ils s'en foutent de la république. C'est quand même très 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 grave. Bon, cela dit, on a appris quand même que la chaîne se désolidarise, mais heureusement, il manquerait plus que ça. Karim ! Il nous appelle de Gonesse.
Bonsoir,
Karim.
Adil.
Bonsoir Karim, bonne année à vous.
Merci également, je pense qu'on peut se tutoyer, on s'est déjà croisé dans les studios de Beurre FM.
Et bah vous faites comme vous voulez, vous me tutoyez, vous me vous voyez, tout est ouvert ici, tout est libre.
Allez, on est en famille donc on peut partager, on peut
Allez-y. Tutoyer. Alors, qu'est-ce que vous dites vous ?
Moi franchement le sujet de ce soir ?
Oui.
Ouais, je pense que la France elle va très mal, enfin la France, certaines personnes, certains politiciens vont très mal, parce que ouais. La France elle est très bien. Les musulmans vivent très très bien en France, on n'a aucun souci ouais. avec...
Et les musulmans sont complètement...
Les musulmans sont humains, ont deux pieds et deux jambes...
Mais ils n'ont aucun problème avec la République, rassurez-moi.
Aucun souci avec la République, bien au contraire.
Mais vous savez ce qu'il dit, Jean-Claude Dessier? Il dit qu'ils ne savent même pas, ils ne savent même pas ce que veut dire le mot république. C'est quand même grave.
Oui, mais ça, après, malheureusement, il faut faire du buzz, très simplement. Il faut faire du buzz. Et tout est bon à prendre concernant les musulmans. C'est triste à dire, mais c'est la dure réalité.
Mais comment on peut laisser glisser ce genre de propos normal comme si de rien n'était, Karim? C'est ça qui est inquiétant.
Parce qu'en France, actuellement, c'est devenu normal. C'est triste à dire, mais c'est devenu normal.
Donc on peut taper sur les musulmans, c'est normal, vous dites-vous.
On peut surfer sur la vague du musulman. Après, bon, je peux aller très loin dans mes propos, hein. Mais là, on va parler de la République, on va parler donc de la religion musulmane. Qui dit musulman, qui dit maintenant, aujourd'hui en France, hein, quand on entend musulman, on dit terroriste, maghrébin, terroriste. Donc après, non, le système, il va plus bien. Ça va pas bien du tout, là. Vraiment, c'est inquiétant, je dirais même. Vraiment.
Ouais, c'est inquiétant, c'est vrai.
Donc après, c'est à nous de prouver par A plus B qu'en tant que musulman, on fait bien partie de cette République, on est des citoyens comme les autres, et on représente la France et la République, très simplement.
Mmh. Ouais, c'est bien de le dire, Karim. C'est très très bien.
Non, mais c'est aussi simple que ça. On représente la France, nous sommes français, et nous représentons la République. Et moi, j'assume et je suis très fier d'être français. Vraiment.
Et ben, bravo, Karim. Merci d'être intervenu sur notre antenne.
Voilà, grand plaisir, Adil. Prenez soin de vous, tout le monde, et à très bientôt. Ciao, ciao.
À très bientôt. Tiens, je vais accueillir direction le 93, où je vais accueillir Samir. Bonsoir, Samir. Samir, bonsoir.
Oui, bonjour.
Bonsoir, Samir. Bonsoir. Vous nous appelez de quelle ville du 93?
Moi, je suis de Villepinte.
Villepinte, collez bien votre. Collez-vous bien sur votre portable pour qu'on puisse vous entendre, parce qu'on vous entend au loin, là. Je ne sais pas si vous utilisez.
Oui, là, vous m'entendez, là?
Un peu mieux. Alors.
Allô?
Les musulmans, ils s'en foutent de la République. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Claude Dessier? Mon cher Samir, il a un problème de connexion. Il faut essayer d'avoir de la connexion avant de passer à l'antenne, parce qu'effectivement, hein, vous savez que c'est du live, du direct, et que parfois c'est un peu pénible pour nous. 01 53 48 3000, venez réagir aux propos anti-musulmans tenus par Jean-Claude Dessier sur CNews. C'était mardi dernier. SOS Racisme a saisi le parquet de Paris afin que la justice poursuive ces propos racistes. Mais au-delà de tout ça, c'est encore une fois, vous voyez-vous sur CNews, C'est ce questionnement qu'on se pose concernant, évidemment, comment on peut tenir des propos aussi racistes sur une chaîne d'information. C'est ça qui me préoccupe, moi, si vous voulez. Et que derrière, évidemment, très peu, en dehors de SOS Racisme et d'autres, hein, je dirais aujourd'hui, est-ce que les musulmans de France ont une voix à faire porter? Eh bien, il faut qu'on en parle au 0153483000. Amine, de quelle ville vous nous appelez, Amine? Bonsoir.
Oui, bonsoir, Samuel. Je vous appelle de Atis Mons,
bonne année, Amine. Allez, on vous écoute, mon cher Amine.
Bah, écoutez, après, je pense que c'est important, effectivement, d'être bien intégré dans le pays. Donc, effectivement, il faut respecter les lois de la République, mais il ne faut pas pour autant perdre notre côté spirituel et religieux. Et je pense que les deux peuvent.
Mais la question n'est pas là, Amine. Hein. La question, c'est que Jean-Claude Dessier, sur CNews, a dit que les musulmans s'en foutaient de la République. C'est ça qui est inquiétant.
Ouais, après ça, c'est des propos, effectivement, qui sont déplacés, qui n'ont pas lieu d'être. Hein.
Ah, ça, c'est sûr. Hein.
Mais après, bon, on a l'habitude, de toute façon, avec les politiques qui font des amalgames, qui ne respectent pas.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous dites qu'on a l'habitude. C'est ça qui m'inquiète.
Malheureusement, on a l'habitude, c'est vrai. Hein. C'est triste à dire. Hein. Je l'ai dit naturellement, mais c'est vrai que c'est malheureux et on a quand même l'habitude d'avoir des propos, des dérives des politiciens à l'égard de notre communauté et notre religion, où ils font des amalgames. Voilà, enfin, ce qu'on a vu là, les attentats il n'y a pas longtemps, parce que c'était pas un musulman, du coup on parle pas d'attentat, on parle d'une personne qui est déséquilibrée mentalement, mais si ça avait été un musulman, on aurait dit que c'était un terroriste.
Oui, oui.
Bon. C'est comme ça.
Écoutez, vous dites c'est comme ça. Eh bien, on continue. Je voudrais vous entendre. Continuez de vous entendre au 0153. Merci, Amine.
Bonne soirée. Au revoir.
Il y a Anis de Sevran. Bonsoir, Anis.
Bonsoir.
Bienvenue, mon cher Anis. On vous écoute.
C'est gentil, merci. Bah, écoutez, déjà, d'avoir une personne comme ça aux heures de grande écoute dans des grandes chaînes de Jura, ça ne devrait pas exister. On devrait limoger directement. Et tous ceux qui sont autour de lui sur le table aussi devraient
être limogés. Normalement, ils devraient être, effectivement. Oui.
Ensuite, parlons bien. À qui appartient la chaîne CNews? À qui appartient C8? Ça appartient pas à Bolloré par hasard? Si je me trompe pas, hein. Ça appartient à des gens richissimes qui laissent, entre guillemets, des entremetteurs foutre le boxon comme ça. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, on va taper sur qui ? Sur les musulmans. Mmh. On va taper que sur les musulmans. Dès qu'il va se passer un truc, ça va être les musulmans. Mmh. Donc, oui, des gens comme ça, il y en aura tout le temps. Maintenant, il faut faire avec. Il faudra faire avec. À nous de ne pas tomber dans le panneau.
Ouais. C'est terrible de se dire, on va composer avec. C'est-à-dire que vous avez intégré dans votre esprit le fait de se dire, bah, c'est l'habitude, ça y est, c'est comme ça, c'est normal.
C'est la street réalité. C'est la street réalité. On en est là au jour d'aujourd'hui, on est en 2023.
Ouais, mais c'est pas normal de se dire, oui, c'est normal de... Ce genre de propos.
Quand on a eu des Sarkozy, là, vos Karchers, quand on a eu des Zemmour, des Le Pen maintenant qui sont normalisés et tout ça, bah, aujourd'hui, voilà, c'est normal. Ça passe. Bon. C'est comme la baguette qui augmente là, ces temps-ci, c'est normal.
Bon, bah, écoutez, voilà. Anis, merci de nous avoir livré votre point de vue.
De rien, merci beaucoup, au revoir.
Allez, au plaisir. Très nombreux au standard. Hein. Kalissa, bonsoir Kalissa de Paris.
Oui, bonsoir à vous.
Bienvenue, moi, chère Kalissa. Bonsoir, bonne année aussi, tous mes vœux.
Très bien. Bah, écoutez, je me permettais, oui, d'intervenir puisque je suis en voiture et je vous écoute.
Bien
Alors,
sûr.
Typiquement, il faut savoir que ce monsieur, voilà, c'est un simple chroniqueur d'un certain âge qui a des idées.
Oui, mais il est chroniqueur vedette sur CNews. Il est connu.
Non, je suis d'accord. Ouais. Non, ce que je veux vous dire, c'est aussi, ils sont là pour faire du buzz. Effectivement, depuis Zemmour, ce type de propos s'est normalisé et même pour vous dire concrètement, hein, moi, je suis dans un milieu. Professionnel exclusivement composé de Français.
Oui.
Et je vous avoue que cette idée-là, elle n'est pas très lointaine de ce qu'il dit. C'est-à-dire que cette idée-là, elle est aussi répandue chez certaines personnes qui font l'amalgame entre arabes, musulmans, immigration, république. Enfin, si vous voulez, ils ont une vision très, très primaire et très sectaire.
Mm.
Et c'est vrai que je pense aussi que...
Très intéressant ce que vous dites tous.
Oui, mais c'est une réalité. Moi-même,
vous savez quoi, je poserai la question, puisqu'il se trouve que c'est un sujet qui a retenu notre attention. Je poserai la question à deux élus, un ancien élu et un élu justement qui viendront confronter leur point de vue sur ces sujets-là, Kalissa. Mais je voudrais les entendre aussi.
Mais si je peux me permettre, l'anathème hein, sur vos invités, je pense que les politiciens, ils vont tenir aussi un autre discours. Moi, je parle vraiment de citoyens lambda qui travaillent dans n'importe quel secteur.
Et ben, on verra.
Dire, oui, effectivement, on a un problème avec les musulmans et la République. En sachant, le problème, c'est qu'ils ne savent pas donner la définition du terme de musulman et de République. Parce que qu'est-ce que c'est que la République, en fait ? Donc, je pense qu'effectivement, que ce monsieur Dacier, c'est un pauvre chroniqueur qui est payé très certainement à dire ce type de propos. Il faut juste revenir sur ce qu'il a dit auparavant sur différents sujets. C'est juste, pour moi, c'est vraiment c'est un vieux monsieur qui est là pour faire peut-être un petit peu d'image et du buzz. Mais je pense aussi qu'il y a un fond au niveau de la société française qui est peut-être à creuser. Et peut-être que nous aussi, en tant que musulmans ou arabes, croyants, non-croyants, enfin bref, on a peut-être aussi un travail à faire de fond auprès de nos enfants. Parce que moi, je le constate, hein, je suis maman d'adolescents. Dieu merci, mes enfants sont très bien intégrés, entre guillemets, dans la République, mais tout en étant musulmans et pratiquants. Mais j'entends quelquefois des enfants de 12-13 ans qui rejettent et complètement en bloc la République, la France, et qui font si vous voulez, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais il y a un rejet systématique de la France et de ce qu'elle peut représenter. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail de fond à faire auprès de nos enfants.
Ah, ça, c'est sûr.
En disant qu'est-ce que c'est que la France, la République, nos pays d'origine, etc., etc. Donc, je pense aussi qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a réellement un vrai fond. Il y a une réalité et il faut la combattre chacun à notre niveau. Voilà. Mmh. C'est juste ma petite contribution.
Bon, ce qui me rassure en même temps, c'est que vous êtes tous, depuis tout à l'heure, à nous livrer votre point de vue en nous disant clairement que les musulmans n'ont pas de problème avec la République.
C'est clair. Moi, je pense que le problème, c'est qu'ils font... Le problème, si vous voulez, de ces gens-là, et qui représentent qu'eux-mêmes, en fin de compte, mais il y a vraiment un amalgame entre arabes, musulmans, français, immigrés. C'est-à-dire que les gens ne font même pas l'effort de savoir qu'est-ce qui se cache derrière votre faciès ou votre manière d'être.
Kalissa, merci d'être intervenu.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci, vous êtes très nombreux, très 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 nombreux à vouloir réagir au 01 53 48 3000. Et je vous en remercie. On se retrouve dans une poignée de minutes, justement, avec le reste de tous celles et ceux qui appellent et qui continuent à affluer dans le saut standard. Anthony, je le vois, il est débordé, Anthony. Tout de suite, le Quoi de Neuf avec quelques minutes de retard.
Les informés. Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque lundi, avec Maître Franck Serfati. Bonsoir, Maître.
Bonsoir, Adi.
Comment allez-vous ? Bonne année, tous mes vœux. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, mon cher Maître ?
La santé.
La santé, vous avez raison, avant tout. Ça, c'est essentiel et primordial. Vous avez décidé de nous consacrer ce soir à un billet d'humeur autour de la réforme des retraites. On vous écoute, mon cher Maître Serfati.
Merci mon cher Adil. Effectivement, chacun a pu l'entendre hein, depuis maintenant 20 ans. Une réforme des retraites est envisagée par tous les gouvernements français successifs pour des raisons évidentes que chacun devrait comprendre. Le déficit des retraites est énorme. Il s'élève entre 12 et 14 milliards d'euros, vraisemblablement d'après les experts. Et bien évidemment, il faudra un jour mettre de l'ordre dans ces retraites, eu égard, hein, les causes sont multiples, eu égard à des phénomènes d'ordre sociétal, puisque la population vieillit. La situation de la France n'est plus aujourd'hui, en 2023, ce qu'elle était dans les années 60-70, d'où cette problématique à la fois sociétale, personnelle, mais aussi, bien évidemment, d'ordre économique et budgétaire. Alors, le président Emmanuel Macron a décidé de faire de cette réforme des retraites l'enjeu essentiel, déterminant de son premier, mais surtout de son deuxième mandat, avec un projet de réforme, sans rentrer dans le détail, parce que je n'aurai pas le temps en l'espace de deux minutes, sans modifier, même si ça avait été le cas voici quelques années, le principe des retraites spéciales. Hein, il est toujours question de mettre un peu d'ordre dans cette diversité et surtout multitude de régimes spéciaux. En tout cas, l'idée essentielle qui sera débattue au Parlement et avant le Parlement avec les différents syndicats serait de repousser l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Donc c'est le critère essentiel, repousser l'âge de la retraite. Alors on verra bien ce qu'il adviendra cette semaine, puisque Madame le Premier ministre a décidé de rencontrer l'ensemble des syndicats. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'accord et s'il n'y a pas de majorité au sein des assemblées parlementaires, il est probable que le gouvernement fasse appel à une pratique que j'avais évoquée, une pratique totalement légale, prévue par les textes, mais qui échappe au débat parlementaire. Oui. C'est le recours à l'article 49-3 de la Constitution, qui permet donc au gouvernement, de façon légale, mais de façon moins démocratique, et j'avais eu l'occasion d'expliquer un petit peu ce processus lors d'une précédente émission. Donc, on verra bien. Projet essentiel, projet qui, bien évidemment, est en discussion en France depuis une vingtaine d'années, je le disais, à titre d'introduction, soulevé par tous les gouvernements, mais également projet, même si effectivement la question est d'actualité essentielle, elle doit être posée et réglée, n'emporte pas l'agrément des syndicats qui vont être convoqués cette semaine par le gouvernement et notamment...
Attention, vous allez vous faire avoir par le lancement de la pub, mon cher maître. Hein.
Alors je termine, on verra la suite et puis on aura l'occasion, mon cher Adil, de débattre de cette réforme et de son adoption ou pas plus tard. En tout cas, bonne année, bonne soirée à vous tous.
Merci infiniment. De toute façon, comme c'est un sujet d'actualité, on reviendra forcément sur la réforme des retraites. Merci maître Serfati.
Merci Adil, à bientôt.
Allez, je lance la pub parce qu'on est grave à la bourre. On lance la pub et on se retrouve tout de suite avec une auditrice de Toulouse, Nadia. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkas.
Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, il est 18h41 et c'est tous les soirs, c'est ici que ça se passe. C'est là que ça se passe en toute liberté d'expression, on commente l'actualité, y compris avec vous les auditeurs de partout en France. Je kiffe, c'est bon ça, c'est bon. Nadia de Toulouse, avant de retrouver Baptiste Neymar, tiens je vais les saluer. Baptiste Ménard, bonsoir.
Bonsoir et bonne année.
Attendez, on ouvre le micro. Ah,
bonsoir et bonne année.
Comment ça va?
Très bien.
Vous arrivez tout de suite de Lille.
Absolument.
Maire adjoint en plus.
Absolument.
Oui. Parti socialiste. Ça existe encore ça?
Non,
pardon, je rigole.
Je suis la preuve vivante.
Un ancien élu face à vous, il s'appelle Mena Douchenir. Il est consultant numérique. Comment ça va?
Très bien, Adil.
Bonne année.
Meilleurs vœux également. Meilleurs vœux à Mathis.
Absolument. Messieurs, on vous retrouve. On retrouve votre voix dans quelques minutes. Nadia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, bonne année.
Bonne année, meilleurs vœux et j'espère beaucoup de paix.
Absolument, surtout. Ouais. On vous écoute, ma chère Nadia.
Ben écoutez, moi je suis partagée. Je suis un peu d'accord avec l'auditrice qui vient de passer en partie, pas en totalité.
Kalissa.
Oui, celle qui est passée, qui a dit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent quand même que les musulmans ne respectent pas la République.
Bon.
Et que, bon, y a des propos, mais pas la majorité. Mais moi, je suis surtout pas d'accord dans le sens où ces propos de ce monsieur sont surtout là pour cliver et pour un peu impacter les musulmans.
Ça, c'est vrai.
Pour qu'ils rejettent davantage la République. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser piéger, parce que la France est un pays d'accueil. Elle offre quand même la chance à tous ceux qui sont sérieux et qui travaillent et qui participent à l'évolution et bien sûr à ce pays. Mais c'est normal, c'est un pays d'accueil et qu'il faut respecter. Sauf que malheureusement, certains qui se prétendent, qui se prétendent musulmans, ne respectent pas véritablement, alors que notre religion prône quand même le respect et beaucoup de qualités que nous ne montrons pas, malheureusement.
Oui.
Et donc je dis que, effectivement, si, et ça, les extrêmes, ça existe dans tous les pays, il ne faut pas se leurrer quand même. Hein. On ne peut pas avoir un pays tout blanc, tout
absolument,
blanc, tout noir, tout noir.
Absolument.
Donc il faut quand même accepter ça, il faut essayer de justement montrer le contraire et montrer que nous, les musulmans de France, eh ben, oui, on travaille, oui, on participe à l'économie de la France, on paye nos impôts, on est là, on est comme tout citoyen français et on aime ce pays, même si on aime nos pays d'origine.
Ouais.
C'est logique.
Merci, voilà. Nadia, de votre intervention.
Merci. Allez,
au revoir. Avant de retrouver Baptiste Ménard, justement, Samia d'Épinay-sur-Seine, je voudrais juste l'entendre. Samia, bonsoir, Samia.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Bonne année.
Bonne année à vous. Je me permettais juste d'intervenir sur deux points. Le premier, alors effectivement, religion musulmane et république sont pour moi concordants, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le second point, c'est que je pense à titre individuel que si on se permet de taper sur la communauté musulmane, c'est parce qu'on n'a aucun poids. Ni économique, ni politique.
Ah bon,
on permet de taper sur...
oui.
Pour moi, oui, si on se permet de taper sur la communauté musulmane, c'est parce qu'on ne représente personne ni rien, c'est parce que les conséquences de ces propos sont minimes. Parce que
alors
si
attendez,
on tape sur d'autres
justement,
communautés...
Attendez, Samia. Il y a Ménad qui veut s'emparer du micro, Ménad, le débatteur Ménad Ouchenir. Vous n'êtes pas d'accord? Je vous vois secouer la tête dans tous les sens.
Samia, bonsoir.
Elle vous écoute, Samia. Parlez avec Samia.
Je ne pense pas que ce soit une question de peser ou de ne pas peser, puisque, bon, déjà, moi, personnellement, je m'inscris en faux, puisque la communauté musulmane, comme d'autres communautés en France, de toute façon, n'a pas vocation à agir en tant que telle, mais au sein d'une seule et même république comme des citoyens. La République ne reconnaissant d'ailleurs aucune religion depuis 1905. Simplement.
Mais elle vous dit clairement, Samia, ça ne pèse pas.
Oui, mais sauf que.
Économiquement
quid,
et.
Dans ce cas-là, quid d'autres communautés religieuses encore moins nombreuses que la communauté musulmane. Je pense à nos amis bouddhistes, sikhs ou autres, sur qui on peut taper. C'est pas une question de taille, je pense.
Laissez-la répondre.
C'est simplement une question de prise de responsabilité et d'institution et de justice et de
Samia,
voir ce qui va arriver comme
Samia,
conséquence.
Ensuite, Baptiste Ménard,
personne
Samia
ne devrait avoir à subir ça, peu importe la
Samia,
taille
Samia
et le poids économique de la communauté.
Samia, d'accord, on vous écoute. Après, il y a Baptiste Ménard qui voudrait vous parler.
Mais la justice, justement, la justice, parlons-en. On a cette impression, et je pense que parler au nom de beaucoup de personnes, qu'on peut se permettre de taper sur la communauté musulmane sans grandes conséquences. Alors évidemment, il y a une justice, évidemment, on respecte les lois en France. Cependant, la communauté musulmane, on se permet de dire et de faire certaines choses, alors que sur d'autres communautés, si on faisait le quart, il y aurait des conséquences, mais gravissimes. Et c'est pour ça que je me permets d'intervenir, parce qu'on n'a aucun poids, aucun lobby, on peut se permettre de dire et de faire certaines choses. Quid de ces news avec ce
Jean-Claude Dacier,
dont je tairai le nom parce que j'ai même pas envie d'en parler, qui se permet de dire certaines choses. S'il avait dit la même chose sur certaines autres communautés, mais vous vous rendez compte des conséquences?
Ah, ouais. Baptiste Ménard, justement, attendez, il y a Baptiste Ménard qui voudrait aussi évidemment échanger avec vous. Baptiste Ménard.
Bonsoir Samia et bonsoir à tous nos auditeurs. Moi, je voudrais déjà dire qu'il faut absolument qu'on arrête de caractériser les uns et les autres par leur religion ou leur appartenance à une communauté religieuse. Ça, c'est ce que je voulais dire en introduction. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que les musulmans sont avant tout des citoyens français. Ensuite, pour répondre au sentiment qui était le vôtre, effectivement, les propos de Jean-Claude Dacier sont condamnables. Ce qui d'ailleurs a beaucoup choqué, c'est qu'il n'y ait pas eu de réaction sur le plateau de CNews des autres interlocuteurs.
C'est ça qui est surprenant.
Parce qu'en fait, on l'a laissé dérouler son propos.
Exactement, aucune réaction.
Il y a eu un autre chroniqueur qui a abondé en disant on va leur apprendre.
Oui, donc
c'est très grave.
Donc c'est encore pire. C'est encore pire. Et ensuite, effectivement, parce que les uns les autres se sont saisis de ces questions, eh bien la chaîne a fait savoir qu'elle était pas solidaire de ces propos. Donc moi je voulais vous rassurer quand même Samuel, en disant que il peut tout à fait, et d'ailleurs je crois que c'est à l'étude, avoir une action en justice.
Bah LFI songe. Pourquoi vous l'avez pas fait vous le Parti socialiste?
Le Parti socialiste.
Vous savez qu'LFI eux ils pourraient saisir le procureur de la République, c'est ce qu'ils ont dit.
Ils ont annoncé.
Mais pourquoi pas? En tout cas,
Est-ce que c'est LFI de le faire? Bonne question Ménat.
Ces propos là, voilà, ça c'est d'ailleurs ça c'est une vraie question. Mais ces propos là, si vous voulez, sont blessants pour nos concitoyens, abîment la République et abîment la concorde nationale. Mais par contre, Samia, je vous réponds aussi. Je pense que ce serait de vous présenter comme musulmane pour répondre à cette question. Non, tous les citoyens de France doivent s'indigner des...
Vous dites quoi, Samia ? Vous dites quoi, Samia ?
Alors, oui, mais non, parce qu'en fait, nous sommes français, mais nous sommes aussi musulmans. Moi, ça ne me dérange pas d'être catégorisée dans ma communauté. Je n'ai pas de problème avec ça. Oui, je suis musulmane et française. Cependant, j'ai été outrée, peut-être plus que certains de mes collègues, parce que je suis musulmane, parce que je suis représentée.
Parce que vous vous sentez visée.
Et voilà. Et le problème, c'est qu'on se sent visé. On n'a aucun poids. La communauté musulmane ne pèse même pas dans les élections parce que alors c'est à nous de faire le ménage au sein de notre propre communauté parce qu'il existe des communautés religieuses en France. J'y ai pas de problème avec ça. La France est laïque, mais elle a aussi plusieurs religions. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Seulement, le sujet, c'est que nous, communautés musulmanes, nous autres musulmans en France, eh ben, nous sommes considérés comme des sous-citoyens. On peut se permettre, nous, de taper sur notre communauté, d'être considérés comme un paillasson et il y a très peu de conséquences à ça. On n'a pas de lobby. On a juste des associations qui se permettent de nous représenter et c'est très bien d'entamer des procédures judiciaires, mais c'est pas suffisant.
Merci Samia d'être intervenue.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci. Samia, bon, vous savez que beaucoup partagent les propos de Samia, vous le savez. Ici même sur cette antenne, Baptiste Ménard.
Ben oui, mais non.
Non.
Là, pour le coup, moi, je suis en désaccord avec elle. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Donc, il faut faire très attention parce qu'en fait, ces propos-là nourrissent une forme de crise identitaire qui fragmente la société et qui nourrit, pour le coup, les extrémismes et les fondamentalismes. Mais il n'y a qu'une communauté. On ne peut pas se... Enfin, moi, il me semble qu'on ne doit pas se définir en fonction d'une appartenance à une croyance religieuse à laquelle chacun a le droit. On peut être musulman, on peut être bouddhiste, on peut être catholique, on peut être je ne sais quoi encore, on peut être aussi athée, mais on ne se définit pas par rapport à une croyance religieuse. En revanche, les propos qui ont été tenus sont condamnables, il y a un cadre légal, les uns et les autres peuvent agir pour dénoncer ces propos.
Pour pas déformer évidemment les propos. Anthony nous a retrouvé un extrait, on va réécouter ce qu'il a dit. Écoutez, justement cet extrait sur CNews.
Je préfère mon...
Mais c'est un choix qui est leur.
On n'est pas tous en même temps,
Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire.
On apprendra ce que c'est.
Enfin,
oui,
c'est ma conviction. On va pas y arriver parce que c'est trop compliqué, les cultures sont trop éloignées.
Jean-Claude Dacier qui dit ça, évidemment, et les autres abondent dans le sens en disant, c'est quand même terrible, ils disent, on va leur apprendre.
C'est ça, c'est effectivement, moi, il y a deux choses, effectivement, moi, qui m'ont interpellé. C'est d'abord déjà le propos de Jean-Claude Dacier, puis quand on sait que ce monsieur a dirigé l'OM, une pensée pour nos amis marseillais quand même, parce que avoir eu
il
un
gars
comme ça...
Il a dirigé LCI aussi, une chaîne
de télévision. Il a eu des responsabilités.
Comme, voilà, on est sur quelqu'un qui est censé maîtriser le verbe.
Ancien patron de chaîne, ancien, vous avez raison, dirigeant de club.
On peut pas forcément lui trouver des circonstances atténuantes. Non, moi je pense que... Moi, Adil, je parle avec des gens de naturellement toutes les communautés. J'encourage nos auditeurs peut-être à se rapprocher. Moi, j'ai parlé avec un monsieur, un Libanais, assez âgé qui m'a parlé justement à l'époque où le pays est entré en guerre civile. Il me disait, je résume, hein, mais que des gens avec qui quelques semaines ou quelques mois avant on buvait des coups, on jouait au foot, on allait au boulot, du jour au lendemain c'est devenu des adversaires, c'est devenu des ennemis, etc. Et quand le pays avait basculé pendant la guerre civile. Et je pense que des gens comme Jean-Claude Dacier, avec des propos comme ça, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, d'ailleurs je m'en fous, cherchent à pousser gentiment, mais sûrement la République vers, j'ai envie de dire, une libanisation de la société, c'est-à-dire pouvoir monter des communautés, déjà les délimiter par la religion par exemple, et puis les monter les unes contre les autres.
Oui.
Et ça c'est un projet mortifère. Et une fois de plus, c'est sur CNews que ça se passe. Il y avait très peu de contradicteurs sur le plateau. Ils ne sont même pas intervenus. La chaîne, on peut, faut le dire aussi, a fait le service minimum en matière d'exclusion, disant que ses propos n'engageaient pas la chaîne. Bon, pour la chaîne.
Elle a fait un communiqué. Elle se désolidarise des propos tenus par Jean-Claude Dacier.
Bien sûr, c'est aussi la chaîne dont Éric Zemmour est sorti des chaînes d'assemblage. Donc, pour le coup, on a régulièrement des propos de ce type-là. C'est une chaîne qui fait de l'audience comme ça. Hein. C'est pour faire de l'argent, naturellement, tout ça. Mais je me refuse, effectivement, moi, prendre ce propos-là comme de la même manière que je me serais offusqué, par exemple, parce qu'on a parlé de communauté tout à l'heure, on a du racisme anti-asiatique, on a du racisme anti-blanc, on a du racisme anti-noir. Moi, ça me choque pareil. Surtout, et je dis ça à nos auditeurs de confession musulmane, parce qu'il n'y a pas que ça, naturellement, ici, sur qui nous écoutent, mais ne tombez pas dans le piège de réagir d'abord, et en tant que musulman, mais réagissez en tant que Français ou en tant que concitoyen de cette République française, de façon à ne pas tomber dans le piège que ce monsieur et ses partisans et ses amis sur le plateau, parce que quand il y en a un qui vient rajouter « on va leur apprendre », là, clairement, il était chez lui, hein, pour pouvoir tenir de tels propos. Tiennent. Donc, ne tombons pas dans le piège de la, comment dire, d'une forme de séparatisme imposé. Et offusquons-nous en tant que citoyens de la République, la religion musulmane n'étant pas reconnue par la République.
Baptiste Maynard, je vous donne le micro. Je voudrais juste accueillir Samir du 93. Bonsoir, Samir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous nous appelez de quelle ville du 93?
Moi, je suis de Sevran, de Lot.
Sevran. Oh, on vous écoute. Samir.
Ouais. Bon, ben, je voulais intervenir parce que, bon, sur ce qu'a dit Dacier, là, déjà qu'il revoit un peu la constitution de 58, et ses principes de la constitution à la France, et c'est une république indivisible, laïque et sociale, déjà, premièrement. Donc, il faut qu'il revoie un peu l'histoire, et puis moi, je voudrais revenir un petit peu sur le fait de l'histoire d'Algérie, pendant la colonisation, on n'a pas été intégré à la République française. Je crois que là, ils devraient revoir un petit peu l'histoire des musulmans et surtout de l'Algérie, qu'on n'a pas été inclus dans la République française quand l'Algérie était française.
Bon.
Donc, je voulais intervenir sur ça. Et deuxièmement, c'est un odieux de sa part de dire qu'on ne connaît pas c'est quoi la République. La République, on la connaît.
Merci Samir pour l'intervention. Merci. Mélad. Merci Samir. Merci.
Oui.
Mélad, avant de retrouver Mohamed de Paris.
Juste une petite parenthèse. Effectivement, quand on voit sur les monuments aux morts les noms inscrits, on retrouve très régulièrement des noms à consonance nord-africaine. Et pour beaucoup, dans les carrés musulmans des cimetières, parce que là, pour le coup, c'est sûr et certain que c'était musulmans, qui sont très malheureusement bien représentés. Donc, effectivement, entre musulmans et république, la question de savoir si les uns et les autres c'est compatible, la question ne se pose pas. Voilà, c'est peut-être un petit message pour Monsieur Dacier.
Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed.
Allô. Bonsoir Hadir.
Bonsoir, bienvenue.
Bonne année,
tous mes voeux également. Vous écoute, cher Mohamed.
Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter. Le problème, c'est pas les propos qu'il y a dit ce monsieur-là ou bien Zemmour, je sais pas quoi, la catastrophe.
Oui.
Maintenant, nous les musulmans, on a accepté. Comment? Nos représentants, donc je peux dire la radio, Mosquée de Paris, Lyon, je sais pas quoi, machin. Il n'y a aucun de ces gens-là qui prend un jour un plateau de télé ou je ne sais pas, il sera invité dans un truc pour défendre ces musulmans, pour dire qu'on est là, on a ça.
Ouais.
C'est vrai ou pas?
Écoutez, Ménade.
Oui, non, enfin, le recteur de la mosquée de Paris, par exemple, a fait des plateaux pour... Alors, en plus, il y a le propos de M. Dacier, puis avancé avec les propos de M. Welbeck, dans un autre registre.
On va en parler.
Mais effectivement, dire que les instances, finalement, n'ont pas réagi n'est pas tout à fait exact. Après, effectivement, l'écho médiatique de la réaction des instances religieuses n'a pas forcément été aussi important. que l'écho médiatique des réactions de personnes plus privées.
Merci Mohamed d'être intervenu. Voilà. Avec plaisir. 0153 48 3000. Justement, messieurs, on va continuer dans la même. Pas dans le même registre, mais en tout cas, autre polémique qui a aussi a trouvé, en face, évidemment, le recteur de la mosquée de Paris qui a critiqué fermement je parle de Michel Houellebecq sur les musulmans. 20 ans de polémique, justement, avec Michel Houellebecq, français de souche et musulman. Il a accordé une interview et il a de nouveau relancé cette polémique. Et je le rappelle, la grande mosquée de Paris, elle a décidé de monter au créneau pour dénoncer l'analyse de celui qui avait remporté le Goncourt 2010, souvenez-vous. Donc, une plainte sera déposée dans les prochains jours. Baptiste oui. Ménard, bon, alors, Michel Houellebecq, clairement, disons-le, ça fait 20 ans de polémique quand même.
Oui, Michel Houellebecq, qui est un écrivain non dénué de talent, devient véritablement un polémiste, et un polémiste qui a une obsession, l'islam, et les musulmans. Et d'ailleurs, cette obsession lui fait, déformer ce qu'est l'islam et ce que sont les musulmans de France. Donc, moi j'ai lu une partie de ses propos, mais parler de Bataclan à l'envers, c'est irresponsable, c'est brutal. Mmh. Et encore une fois, ça sépare...
Certains parlent de phrases inacceptables.
À commencer par les familles des victimes.
Bien sûr, c'est inacceptable. Mais encore une fois, je constate et je considère qu'il y a une pente qui est prise depuis un certain nombre d'années par un certain nombre de responsables politiques, associatifs, polémistes, chroniqueurs, qui disent n'importe quoi, sans que personne ne leur porte de contradiction et qui blessent fondamentalement un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, il ne faut pas s'étonner quand, à un moment donné, vous avez le sentiment que, alors que vous respectez les règles de la République, que vos enfants vont à l'école, que vous faites tout correctement, et qu'on n'arrête pas de vous renvoyer quelque chose qui n'existe pas dans votre quotidien, bien sûr que ça peut nourrir un certain nombre de phénomènes de rejet, de sentiments de rejet de la communauté nationale. Et c'est là est le risque, parce que là, pour le coup, vous avez les islamistes radicaux qui se glissent dans cette brèche pour dérouler leur discours et pour fédérer, on va dire, de nouveaux fidèles. Ouais. Donc, encore une fois, il faut qu'on en arrête avec cette irresponsabilité.
Ouais, c'est pas mal, effectivement. Mais là, de Auchenir.
Alors, moi, je distingue quand même l'action de Michel Houellebecq de celle de M. Dacier, par exemple. Moi, je vais vous dire, quitte à être un peu provocateur, mais pour moi, Michel Houellebecq est un petit commerçant. C'est quelqu'un qui a un fonds de commerce, qui l'utilise, fait des livres, il les vend.
Et il vend des millions.
Il gagne de l'argent avec ça. Voilà, comme quoi, oui, on peut faire de l'argent avec n'importe quoi. Hein. Il y en a bien qui font de l'argent en polluant la terre, d'autres font de l'argent en polluant les esprits. C'est comme ça que je vois Michel Houellebecq. Et moi, en plus, je me suis intéressé il y a longtemps déjà, à l'époque où il avait sorti son fameux livre, Soumission un peu à son parcours. Et vous savez qu'on a un point commun, parce qu'il a commencé dans la façon de l'informatique, dans les années 80, ce monsieur. Bon, visiblement, il n'était pas assez bon, il est allé écrire des livres, ou il était peut-être visiblement un peu meilleur. Mais si c'était pour faire ça, je pense qu'il devrait retourner faire de l'informatique, il est le bienvenu.
Ah bon ?
Ça lui évitera de dire des bêtises comme ça. Ouais.
Mais est-ce que vous pensez que ça a un impact quand on confond, quand on crée l'amalgame entre terrorisme et islam, comme le rappelle le recteur de la mosquée de Paris, Baptiste donc Ménard ? Est-ce que ça a un impact ? Est-ce que ça a des conséquences ?
Oui, je le crains. Et ce qui est encore plus embêtant par rapport, c'est là où j'ai un peu de mal à commenter par rapport à Houellebecq, parce que autant Dacier est un chroniqueur, il dit un certain nombre de choses, autant Houellebecq, il est toujours sur le fil et lui-même joue de cette ambiguïté en disant, je suis un écrivain, donc c'est la fiction. Mais en même temps, quand vous entendez ce qu'il a écrit et ce qu'il affirme dans la revue Front Populaire, c'est presque un acteur politique. Donc, bien sûr, quelqu'un qui vend des millions de livres, qui a pignon sur rue, que l'on écoute ici et là, bien sûr qu'il a un impact, et les propos qu'il tient sont d'une extrême gravité, et effectivement il entretient des amalgames, il a des propos dont on voit bien quand même le but et la gravité. Et c'est pour ça que moi je le disais tout à l'heure à Samia, mais au-delà des musulmans de France, moi je ne suis pas musulman, mais je suis indigné par ses propos. Et en tant que citoyen français, membre de, la, de cette même communauté nationale, je dénonce fortement ces propos-là. Ouais. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait attendre. C'est pas...
La question que je vous pose, c'est qu'on a vu le défilé des auditeurs tout à l'heure. Ils ont appelé, évidemment, en masse, et qui tous, parmi eux, absolument, 90% disent que oh, finalement, ils ont fini par intégrer. Ils sont plus du tout surpris le fait qu'on tape sur les Français de confession musulmane. C'est là où ça devient grave.
Ça devient effectivement très grave.
C'est-à-dire qu'on a intégré le fait.
Pas forcément intégré, mais ça ne surprend plus. Je ne sais pas si, si on perçoit vraiment la, la différence dans, dans mon propos. C'est qu'aujourd'hui, il y a une manie. Y a pas qu'en France d'ailleurs. Hein, ce n'est pas le seul pays où ça se passe comme ça. Mais où, lorsqu'on veut, par exemple, diluer un autre débat, on vous sort une polémique sur le voile, on vous sort une polémique sur quelconque pratique, etc. Et ça en devient effectivement ridicule, parce que c'est ça qui marche. Et puis, il faut dire aussi ce que c'est sur ce qu'on appelle des produits d'actualité. Les produits d'actualité, ça sert à faire de l'argent, ça fait de l'audience. Dès qu'on parle de ça à la télé, ça fait de l'audience, et dès qu'on parle d'autre chose, ça fait moins d'audience. Donc il y a aussi des chaînes, alors pour pas les, on les a nommées plusieurs fois, dont c'est aussi un fonds de commerce. Donc des écrivains, des chaînes. Et l'amalgame, pour moi, entre religion musulmane et terrorisme, c'est celui qui pour moi est le plus dangereux, puisqu'arrivé à un moment, dans les inconscients surtout des plus jeunes, parce qu'à la limite, on peut avoir une certaine maturité chez des personnes plus âgées, mais chez les plus jeunes, ça va devenir la même chose, et on se dirige lentement vers une société où on va devoir un peu cacher son affiliation religieuse lorsqu'on est musulman, pour éviter d'être trop mal.
Rappelons-le quand même que ces positions controversées de Michel Houellebecq ne sont pas nouvelles, hein. Il y en avait eu plusieurs d'ailleurs. Souvenez-vous, il avait été poursuivi, mais relaxé en première instance, hein, comme en appel lors d'un procès incitation à la haine après avoir déclaré en 2001, je le rappelle, la religion la plus con, c'est quand même l'islam.
Absolument. C'est un fonds de commerce, c'est bien ce que je vous dis. C'est qu'il est, et derrière, il sort des livres et ça se vend, etc. Il a un lectorat, et puis ce sera dans sa biographie posthume.
Ce que disait, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans Jean-Baptiste Ménard, pardon. Il disait que, notamment, c'est aussi une niche pour les musulmans radicaux, c'est ça, hein,
bien sûr,
qui eux aussi profitaient de cette situation pour venir drainer.
Ça appuie leur propos, c'est de dire, regardez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous serez toujours rejeté, vous serez toujours considéré comme des sous-français, et donc bien évidemment, eux, ils déroulent ce câble-là, et effectivement, quand on a les polémiques qu'on a ces dernières semaines et ces derniers jours, bah, on peut légitimement se poser la question. Quelqu'un de bonne foi peut légitimement se dire, mais attends, moi je fais tout correctement, et pour autant on me renvoie ce type de propos, et ça ne semble même pas émouvoir, parce que c'est ça aussi qui a choqué. C'est pas tellement seulement l'intervention de Jean-Claude Dacier, c'est la passivité de celles et ceux qui étaient autour de la table, et le temps que ça a pris pour avoir une réaction, y compris de la chaîne.
Ce sont des alliés objectifs. Ces gens-là travaillent ensemble. Les radicaux d'un côté et les Houellebecq / Dacier / point de suspension, ce sont vraiment des alliés objectifs. Ils travaillent pour la même cause.
Voilà, eh ben, je voudrais vous entendre, continuer de vous entendre. 01 53 48 3000. Venez justement livrer votre point de vue concernant donc Michel Houellebecq, qui, rappelons-le, c'est vrai que ça avait surpris, hein, quand il avait été relaxé. Hein.
Ça surprend, mais c'est la justice, c'est l'autorité la justice. De la chose jugée.
Ouais. La polémique donc qui continue de faire du bruit, qui grandit autour des propos tenus par Michel Houellebecq sur les musulmans. Venez en parler justement. 01 53 48 3000. Venez ici en parler. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un autre sujet. C'est les vœux d'Emmanuel Macron. Les vœux donc, vous savez que ont suscité beaucoup de réactions auprès de l'opposition, mais aussi auprès des climatologues, auprès des écologistes, auprès des. Vous savez, il y a la coupure d'électricité, les boulangers aujourd'hui qui ont lancé un cri d'alarme, les hôpitaux. Bref, il a adressé des vœux optimiste aux Français, mais on a le sentiment que c'est pas perçu de la même manière par l'ensemble des Français, Ménard de Chénier et ensuite Baptiste Ménard.
Alors, on va.
Beaucoup fait réagir. Alors,
je vais vous dire, moi je ne suis pas de Renaissance, mais je vais encore devoir défendre le propos du président ici. Vous attendiez à quoi? Enfin, je parle aux gens, aux détracteurs de son discours de vœux, qu'il nous fasse un discours absolument pessimiste, alarmiste, et qu'il vienne nous casser le moral en toute fin d'année ou en tout début d'année 2023. Non, je trouve qu'il n'y avait pas tellement le choix que de faire un discours rassembleur et optimiste. Il y a eu naturellement alors des propos qui.
Et vous répondez, Jean-Baptiste Ménard. Il dit que c'est pas très rassembleur.
Alors. Justement, il y a des interprétations, mais je pense que quand on est dans l'opposition, on va prendre une interprétation qui arrange l'opposition, et quand on est dans la majorité, on va prendre une interprétation qui arrange la majorité. Je dis simplement que ce discours aurait pu être bien pire, que moi, je l'ai écouté, j'ai pas été spécialement choqué à peut-être quelques tournures de phrases qui auraient pu être peut-être probablement mieux faite. Quand tu parles de qui aurait pu prévoir la crise climatique, je pense qu'il parlait plutôt de la météo qu'on s'est tapé en 2022 exceptionnellement chaude.
Et ça a mis en colère les climatologues. Hein.
Oui,
mais les écologistes.
Mais le même président qui a dit il n'y a pas de planète B en 2017, donc on peut pas le reprocher d'être climato-sceptique.
Bah, on peut lui reprocher.
Jean-Baptiste Ménard. Alors justement.
Bon, alors là, je ne suis là pas d'accord.
Justement, faut en parler. Enfin, il faut en parler.
De polémique. Non, le discours de vœux d'Emmanuel Macron, rien n'allait, ni sur la forme, ni sur.
Alors
le
parlons-en. C'est-à-dire.
Alors, c'est une présidence qui devient vraiment bavarde et qui est complètement déconnectée du quotidien des Français. Et il y a quand même un grand paradoxe de parler pendant 20 minutes, c'est long, pour rassembler les Français et n'avoir que pour propos que des éléments qui les divisent. Quand même, la réforme des retraites, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, l'actualité, que les urgences auxquelles nous sommes confrontés, l'urgence climatique, l'urgence démocratique, que l'urgence c'est de faire la réforme des retraites?
Mais ce sera jamais le bon moment.
La
réforme des retraites, ça fait 20 ans qu'on fait. Ce sera jamais le bon moment.
Ça fait pas 20 ans, parce que je suis désolé de le rappeler ici, mais la dernière réforme des retraites qui a été faite, c'est par François Hollande, que beaucoup ont condamné, etc. Il n'empêche que lui, il lui a pas fallu deux quinquennats pour faire une réforme des retraites, donc je le dis quand même au passage, parce que c'est bien de parler de grands réformateurs, on peut se faire du vent sur la queue, mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron, ça fait 6 ans qu'il nous parle de la réforme.
Avant ça, il était ministre de l'économie et secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande.
Donc, à un moment donné, ça suffit. Cette réforme des retraites, elle n'est pas nécessaire, et en plus, sur le contenu, elle est injuste. Et elle provoque l'unanimité contre elle. Donc, quel est le sens de ça? Ensuite, il parle dans son propos du réchauffement climatique en disant qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires. Non mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire, le gouvernement qu'il préside depuis maintenant 6 ans a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Mmh. Il y a des rapports du GIEC qui se succèdent chaque année. Je veux dire, le président Macron, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, a accès à ces documents et j'ose espérer qu'il les a lus ou qu'en tout cas il a lu les synthèses. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Et il y a vraiment une ironie à la fin quand même de parler de la France des bâtisseurs, etc. Quand on a comme action politique de démolir le modèle social. On le voit sur les retraites, on le voit sur l'assurance chômage avec le décret scélérat qui a été posé durant les vacances par Olivier Dussopt et on le voit sur les services publics. Donc non, franchement, sur ces vœux 2023, franchement, il y a de quoi être en colère.
Il y a de quoi être en colère. Qu'est-ce que vous répondez, Ménad, au Chénier?
Je réponds.
Il y a plusieurs points qui ont été abordés là.
Absolument. Je vais peut-être faire une redite. Effectivement, sur la crise climatique, c'est le point où je partage. Ça aurait pu être mieux formulé, puisqu'effectivement, c'est pas comme si la crise climatique, elle était pas vécue depuis pas mal d'années. Je absolument certain que le président de la République et son entourage sont au fait et investissent sur cette question, sur les condamnations que l'État français, pas Emmanuel Macron, l'État français a subi. C'est pour son inaction sur plusieurs années, j'ai envie de dire plusieurs quinquennats. C'est pas quand il est arrivé en 2017 qu'il a tout fiché en l'air. Ensuite, sur la réforme elle-même, alors ça, effectivement, on a un élu du Parti Socialiste qui n'est pas d'accord avec la réforme, dont acte, c'est la démocratie. Il y a un Parlement, il y a un travail parlementaire, il y a des décrets, il y a des ministres qui déposent des décrets. Alors, un ministre qui dépose un décret, s'il est scélérat ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les institutions qui fonctionnent comme ça. Et ben, fallait être majoritaire, vous l'avez été de 2012 à 2017, avec le résultat qu'on connaît.
Et ben oui, le résultat qu'on connaît.
Jean-Baptiste Ménard.
Sous le quinquennat de François Hollande, les inégalités ont reculé. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elles ont explosé. Vous avez un pays qui n'a jamais été autant divisé que depuis lors. Et vous, donc, moi, je veux bien qu'on reparle sans cesse du quinquennat de François Hollande, mais c'était il y a bientôt 10 ans. Donc, à un moment donné, j'appelle aussi à regarder la réalité du pays tel qu'il est aujourd'hui, de l'action d'Emmanuel Macron et de ses inactions et de ses propositions qui, franchement, sont complètement en décalage complet avec le ressenti de la population.
Ouais, notamment, est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Alors, moi, je profite justement de ce que vient de dire Jean-Baptiste Ménard. Les boulangers aujourd'hui, on a bien vu leur cri d'alarme et on parle de cette hausse des prix de l'énergie. Il y a un témoignage qui m'a beaucoup plu, qui m'a pas plu, mais qui a interpellé mon regard. C'est celui qui a été diffusé sur une chaîne news où un boulanger dit ne pas pouvoir payer sa facture d'électricité et qu'il craint qu'il va devoir fermer sa boutique de boulangerie dans les prochaines semaines. Ça interpelle.
Et on a même des boulangeries maintenant qui, dans certains endroits du pays, n'ouvrent que le week-end parce qu'effectivement, ils ne veulent plus assurer une semaine complète d'activité. Non, mais alors, il faudrait lui demander, puisque je ne suis pas son représentant personnel, mais à la limite, c'est des réponses, je pense, aussi de bon sens. Là encore, la libéralisation du marché de l'énergie et sa réorganisation, on peut en discuter, hein, ça n'a pas commencé en 2017, ça a commencé bien avant, et ça s'est fait, et ça a atterri, plutôt même un peu avant, en 2017. Moi, ces commerçants-là, Adil, moi, la première chose que je dirais de manière très pragmatique et à notre niveau de citoyen, la première chose qu'on peut faire, c'est les soutenir. Ouais. Vous avez vu que je suis arrivé sur votre plateau aujourd'hui.
J'ai vu.
Avec un sachet de chouquettes, et puis c'est symboliquement, bien sûr, hein, mais d'habitude, j'arrive. La première chose qu'on peut faire, c'est aller peut-être davantage, pour ceux qui en ont le pouvoir, hein, je parle du pouvoir d'achat, plus régulièrement chez nos boulangers pour les soutenir.
Alors justement, écoutons un extrait et on revient en reparler ici même sur le plateau. Je donne la parole à Jean-Baptiste Ménard. Écoutez.
En direct avec nous. Pour vous, c'est devenu tellement... Bonjour, insupportable que vous avez décidé de manifester. Il y a quelques minutes encore, vous étiez sur un rond-point avec vos employés, avec des élus locaux précisément. Racontez-nous pourquoi la situation est devenue insupportable pour vous.
Elle est devenue insupportable parce que les factures d'électricité sont tellement élevées que je ne peux pas les payer, parce que si je les paye, je ne peux pas payer mes salariés, mes fournisseurs et puis le reste de mes charges.
Alors concrètement,
voilà, clairement, c'est dit, hein, c'est dit clairement. Là, c'était chez nos confrères, donc chez Bruce Toussaint de BFM TV. L'extrait, il veut tout. Voilà, il est clair, non ?
Donc à notre niveau, je disais effectivement d'aller plus souvent et en tout cas sur nos commerçants, mais aussi au niveau de l'État,
parce qu'on est quand même. Non, mais ça paye pas les factures. On a l'électricité,
effectivement.
Je veux bien. J'entends votre message. Non, attends, les soutenir, mais ça paye pas les factures d'électricité.
Le deuxième levier, c'est effectivement, et là, c'est une mobilisation de l'État, parce qu'on a quand même dans un pays où on a un niveau de prélèvement extrêmement élevé. Il faut bien que de temps en temps, effectivement, ça revienne. Et là, on parle de commerce de proximité, on parle de commerce de première nécessité. Et on a eu quelques amortisseurs, quelques coussins ici et là pour les commerçants, mais visiblement insuffisants.
Jean-Baptiste Ménard.
Il y a une mobilisation à avoir auprès des autorités étatiques pour qu'elles interviennent auprès des acteurs de l'énergie.
Vous pensez que ça prendra ? Je ne suis pas sûr.
L'urgence, elle est là. L'urgence, elle n'est pas à la réforme des retraites, je le redis. L'urgence, elle est de répondre aux problématiques quotidiennes. On peut se retrouver dans 3 mois avec des villes-musées parce que tous nos commerces de proximité auront fermé, la mort dans l'âme, sans que personne n'en parle. Sans que personne n'en parle. Donc, à un moment donné, là, il faut une mobilisation de l'État, il faut un plan d'urgence pour accompagner nos petits commerçants qui, effectivement, font face à la montée des prix. Mais vraiment, je veux dire, ils hurlent dans le désert. Alors, vous avez raison d'appeler à la mobilisation, chacun le fait. Je veux dire, enfin, ceux qui peuvent le faire,
bien sûr.
Dans
la mesure du pouvoir de chacun.
Il faut quand même aussi dire que, parfois, dans les commerces de proximité, c'est plus cher que dans le commerce de grande distribution. Et donc, on ne va pas blâmer non plus, moi je le dis à ce micro, on ne va pas blâmer celles et ceux qui ont le plus de difficultés, qui comprennent totalement et qui ont envie de soutenir leur commerce de proximité, mais qui n'en ont pas le pouvoir d'achat. Donc, à un moment donné, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, les collectivités territoriales, les collectivités locales le font, mais à un moment donné, disons-le aussi, elles font face à une baisse des dotations chronique. Donc là aussi, vous voyez, on parle de l'action d'Emmanuel Macron. Ça fait 6 ans qu'il est là. Ça fait 6 ans qu'il grève le budget des collectivités.
Alors, autre sujet, vous savez, vous l'avez dit, Jean-Baptiste Ménard, c'est la réforme des retraites. Est-ce que c'est l'année 2023 qui va être justement la question qui divise, le débat qui divise, le débat qui explose dans tous les sens? Et puis, peut-être certainement, parlons-nous des retours des Gilets jaunes. Hein, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dessine, paraît-il. On revient en parler tout de suite après la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Retour sur le plateau, justement, 19h17, et dernière ligne droite concernant donc ce sujet qui divise et qui continue de, évidemment, faire polémique. Les vœux d'Emmanuel Macron, mais également aussi, c'est le retour, la suite, hein, de cet effet, celle de cette réforme des retraites. Je voudrais qu'on en parle, mais également aussi le retour d'une forte mobilisation, à la fois des syndicats, mais aussi le retour des Gilets jaunes. Ménad, Ouchenir.
La réforme des retraites,
ça s'annonce pas bon tout ça le mois de janvier.
Moi je sais pas vous dire, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire comment ça s'annonce ou pas. Mais ce que je sais Adil, c'est que la réforme des retraites, c'était quelque chose qui était censé avoir lieu, qui avait commencé d'ailleurs à être évoqué, pas évoqué, mais travaillé dès 2019, voire même 2018, et qui devait être supposément fait en 2020, avant qu'on se prenne tous de plein fouet la crise sanitaire.
Oui.
Et donc, 2023, en fait, c'est le décalage horaire, si j'ose dire, avec la crise sanitaire et puis peut-être un peu de guerre en Ukraine, qui font qu'il faut s'en occuper. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que ce sera jamais le bon moment. Tout le monde dit que c'est pas le moment. D'accord, ce sera jamais le bon moment dans ce cas. Naturellement, il y a une urgence climatique, il y a une urgence économique, il y a une urgence aussi sociale, vous parliez des gilets jaunes, mais ce sera jamais le bon moment. Donc autant se lancer, arriver à quelque chose, et effectivement, peut-être que si c'est pas parfait, parce que ça ne le sera pas, éventuellement revenir dessus dans les années qui viennent.
Jean-Baptiste,
mais pourquoi en fait, aujourd'hui, moi ce qui me pose problème, c'est qu'on a un débat surréaliste, il n'y a aucune raison aujourd'hui de faire une réforme des retraites.
Parce que les régimes sont parfaitement équilibrés.
Absolument, mais le régime, il est même excédentaire. Il est excédentaire, le régime. Le comité d'orientation des retraites, le COR, dit dans son rapport, il s'est corrigé parce qu'il avait dit à un moment donné que ça allait être déficitaire, est excédentaire. Il est excédentaire en 2022 et excédentaire en 2021. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de nécessité de faire une réforme des retraites. Et j'allais dire, si même il fallait en faire une, en tout cas, il ne faut pas faire celle que prévoit le gouvernement. Quand même, un âge pivot à 65 ans, vous savez ce qui révolte les gens, vous savez ce qui peut relancer les gilets jaunes,
oui.
C'est l'injustice.
Absolument.
Cette réforme des retraites, elle est injuste. Pourquoi ? Il y a un écart d'espérance de vie de 7 ans et demi entre le cadre et l'ouvrier. Et vous allez demander à un ouvrier qui a ses années de cotisation, vous allez lui demander une surcotisation de 3, 4, 5 ans, sans que ça lui rapporte un seul euro sur sa pension, sur sa retraite, enfin sur sa pension au moment de faire valoir son âge de départ à la retraite. Voilà ce qui scandalise les gens. Et après, on fait semblant, on dit ah bah oui, alors les femmes, on va regarder parce qu'il y a quand même un problème, on va faire en sorte que ce soit 1 000 euros. Est-ce qu'on regarde les soulignes, est-ce qu'on regarde les sous-titres et qu'il faut avoir le nombre des années de cotisation?
Où sont les amendements du Parti Socialiste?
Les amendements, il y en aura beaucoup, mais je rappelle que s'il y a un 49-3, on ne sera pas amené à voter sur le texte. Or, le gouvernement, Elisabeth Borne nous dit déjà, c'est quand même d'ailleurs là aussi paradoxal, on réunit les partenaires sociaux demain et mercredi. Or, le gouvernement nous dit déjà, ah ben, de toute façon, pas de débat, circuler, il n'y a rien à voir, on utilisera tous les artefacts qui sont à notre main pour priver de débat. Donc, vous voyez, non seulement l'injustice des propositions, et deuxièmement, l'injustice de la méthode. Voilà ce qui provoque cette crise démocratique que nous traversons, et voilà ce qui provoque de la colère. Parce que, encore une fois, Emmanuel Macron, il fait cette réforme. Pourquoi ? Moi, je vais vous le dire pourquoi il fait cette réforme. Il fait cette réforme parce qu'il veut entrer dans l'histoire. Il n'y a aucun. Parce qu'il veut être le grand réformateur, etc., etc., et qu'il est déjà en train de préparer sa présidentielle de N+5. Mais tout ça, ça lasse les gens. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire la réforme des retraites. Si vous attendez les amendements du Parti Socialiste, ils seront là. On espère pouvoir les voter. On n'en est pas sûr. Voilà. Donc, ça,
alors,
c'est quand même
c'est bien ça.
Limite.
Alors,
voilà.
Ménade,
on est effectivement exactement sur un sujet. En tout cas, pas purement, mais grandement institutionnel.
Je vous le dis, ça va être explosif au mois de janvier.
On a un Parlement, et on en avait parlé plusieurs fois sur ce plateau, Adil, dont les députés ne parlent pas, ne dialoguent pas assez ou pas assez bien, et ne s'allient pas sur des textes. On a des divisions d'ordre purement idéologique, et tout le monde est victime de tout le monde dans cette histoire. LFI, PS, UDI, ULR, peu importe, même Renaissance d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point, et c'est ce blocage-là qu'on avait redouté, d'ailleurs, juste après les élections législatives. On a ensuite une réforme, alors moi je suis très tranquille avec ça, parce que j'avais déjà évoqué ici le fait que pour moi, l'âge de départ légal pour tout le monde, peu importe le secteur d'activité, est une bêtise. Moi je travaille en informatique, je suis certain que je peux partir beaucoup plus tard qu'un ouvrier qui aura éprouvé davantage son corps, et ça me pose à titre personnel, en tout cas, aucun problème de cotiser plus longtemps si quelqu'un qui a eu une carrière plus dure peut prendre sa retraite plus tôt. Ça s'appelle la solidarité. Donc ça, c'est des modes de réforme. Il y a plein de systèmes possibles et imaginables, là, on est loin d'être parfait, mais ça, effectivement, ça n'arrive pas et ça ne sera pas voté parce qu'effectivement, on n'a pas un Parlement qui est en capacité. Après, on parle du 49-3. Là aussi, moi, c'est pareil, Elisabeth Borne n'a pas inauguré l'usage du 49-3. J'ose pas citer le nom d'Emmanuel Valls. Oups, je l'ai fait.
On peut parler même
de Rocard, qui était un des recordman de la 5e République dans l'utilisation des 49-3. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand un Premier ministre en arrive à devoir déclencher l'utilisation de cet article de la Constitution, parfaitement légal, c'est à la fois un aveu d'échec, mais pas d'échec forcément du gouvernement, d'échec du Parlement. Et j'en reviens aux parlementaires qu'on a élus, qui sont censés représenter les personnes dans nos territoires, de se Allez, j'ai envie de dire, se bouger, ou en tout cas, j'en appelle à leur intelligence personnelle pour s'allier au-delà des seules considérations.
Je crois qu'il y a un petit problème. Les parlementaires font leur travail, ils parlementent, ils déposent des amendements.
Oui. Encore ils se une foutent fois, sur la gueule, pardon.
Mais c'est pas la politique, justement. La politique, c'est quand même de défendre des convictions.
Ah oui.
Les socialistes ont le droit de défendre les leurs. Les républicains ont le droit de défendre les leurs. Ils ont le droit aussi d'être cohérents parce qu'ils ont quand même soutenu une candidate, Valérie Pécresse, qui proposait peu ou prou la réforme que propose aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc je comprends que le gouvernement soit un petit peu agacé de l'attitude des LR qui savent plus bien si l'eau est chaude ou l'eau est froide. Enfin, une fois qu'on a dit tout ça, les parlementaires, ils font leur travail. Après, le gouvernement, il prend ses responsabilités. Si il met en place le 49-3, encore une fois, il en a le droit. Mais encore une fois, moi, la question que je pose, ça n'est pas la légitimité ou non du 49-3, parce que là où vous avez raison, c'est que ça existe depuis quand même un certain temps. Il a été plus limité, puisque maintenant c'est une par session, etc. Bon, on peut rentrer dans les détails constitutionnels, mais toujours est-il que c'est une arme qui est à la main du gouvernement.
C'est pas une arme, c'est une disposition légale. Il faut arrêter de mettre des mots bizarres.
C'est quand même une arme, parce que c'est une arme de brutalisation du Parlement, c'est-à-dire qu'on ne vote plus sur le texte.
C'est la Constitution française.
Mais
pas une arme, il faut arrêter de violenter comme
comment
ça.
Comment vous appelez une pratique constitutionnelle qui vise à empêcher le parlementaire de voter sur le texte sur lequel il doit se prononcer?
C'est un raccourci, éventuellement. C'est un accélérateur du travail parlementaire. Et moi, je me refuse d'utiliser les mots armes, censure, je ne sais pas quoi. C'est dans la Constitution. Alors après, ce qui est vrai, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, avait dit que s'il était élu président de la République, il déclencherait tout de suite une constituante pour une 6e République. Peut-être qu'il l'aurait enlevé. On peut faire de la politique fiction. Aujourd'hui, c'est un élément de la Constitution.
Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon.
Je dis que si on ne veut pas du 49-3, il faut amender la Constitution. Il faut abroger l'article, en tout cas. Et ça, on n'y est pas du tout.
À un moment donné, la question, c'est aussi l'opportunité politique. Est-ce que vous croyez que dans le moment que l'on traverse, est-ce que vous croyez que c'est le moment de faire la réforme des retraites? Est-ce que vous croyez en plus, mais alors que je vous ai démontré qu'il n'y a aucune raison de la faire? Et deuxième élément, est-ce que vous pensez que non seulement on amène un projet qui provoque de la colère, de la contestation, l'unanimité des syndicats contre les sondages qui montrent que les Français sont contre, et en plus vous voudriez priver de débat démocratique, c'est-à-dire empêcher les parlementaires de faire leur travail et d'amener le gouvernement à un 49-3. Non. Ou alors allons jusqu'au bout, proposons le texte, mais allons jusqu'au bout du débat et permettons aux parlementaires de se positionner, au LR d'être cohérent ou de se dédire, à la gauche de faire valoir un certain nombre de positions, et puis on verra bien. Sauf que vous voyez bien ce que dit Elisabeth Borne, c'est qu'elle refuse le débat démocratique.
Le débat démocratique, on peut en discuter de 15 façons différentes. Mais il y a un mot, par exemple, que vous n'avez pas évoqué, c'est la voie référendaire, qui pourrait être, par exemple, déclenchée. La voie référendaire, on demande aux Français ce qu'ils veulent là-dessus. C'est aussi une des innovations politiques qu'on se refuse d'utiliser. Mais encore une fois, le Parlement, il a été élu par les gens en 2022. Donc tout le monde savait pour qui ils votaient. Avant ça, ils ont voté quelques semaines avant pour le président de la République.
Personne n'a eu de mandat. On dit ça quand on a perdu.
Madame Hidalgo n'a forcément pas été à la hauteur des espoirs qui étaient les siens.
Mais là-dessus, l'audience du Parti Socialiste est bien supérieure au score qu'a fait Anne Hidalgo. Parce que, je le redis, cette présidentielle, ça a été un coup.
De la même manière que Madame Pécresse aurait dû faire nettement plus. De la même manière.
Parce que cette présidentielle, quand même, on peut y revenir.
Nous sommes
au mois de février, il y a la primaire populaire qui voit la désignation d'une candidate, Christiane Taubira, qui au final n'a pas les votes, n'a pas les signatures, et donc les membres de la primaire populaire appellent à voter Jean-Luc Mélenchon. Et à ce moment-là, vous avez 2 à 3 points dans les sondages qui commencent à s'ajouter à Jean-Luc Mélenchon, et là vous avez une triple mécanique de vote utile. Vous avez les gens qui votaient Zemmour, attention, parce qu'à la montée de Mélenchon, il faudrait quand même pas qu'on ait pas de candidat d'extrême droite au second tour, donc on vote Marine Le Pen. Vous avez les électeurs de Valérie Pécresse qui disent, oh là là, attention, il faut voter Emmanuel Macron, parce que sinon on va se retrouver dans un second tour Le Pen, Mélenchon. Et vous avez tous les électeurs de gauche qui étaient positionnés chez Yannick Jadot, qui étaient positionnés chez Anne Hidalgo et chez Fabien Roussel, qui finissent chez Jean-Luc Mélenchon. Donc cette élection présidentielle n'a offert de mandat à aucun candidat à quel que ce soit. Et, Emmanuel Macron n'a gagné que pour une seule raison, et parce que moi, par exemple, comme électeur de gauche, j'ai voté contre Marine Le Pen et donc j'ai pris le bulletin de vote d'Emmanuel Macron.
Ça s'appelle la démocratie.
Je n'ai jamais validé son projet politique.
Ça s'appelle la démocratie.
Ça s'appelle la démocratie, mais
comme disait quelqu'un, le pire des régimes à l'exception de tous les autres.
Voilà. Mais donc, faut faire attention à ce que l'on dit.
Eh bien, merci, monsieur. Débat, vous le voyez bien, très passionnant, mais surtout explosif. Et il est attendu d'ailleurs au Parlement.
Absolument.
Et je pense qu'à mon avis, on s'attend quand même dans les prochaines semaines à des débats musclés.
On n'y sera pas, mais on sera ici pour mener le débat sur
absolument, pour le commenter. Absolument. Merci, Jean-Baptiste Ménard. Vous êtes élu dans le nord de la France.
Absolument.
Absolument. Vous êtes chargé de quel portefeuille ?
Je suis chargé du portefeuille de la démocratie participative du numérique.
Voilà. Ah bah tiens, bah voilà. Et du numérique. Mon cher Ménard Ouchenir, ancien élu, mais également consultant numérique, merci.
Absolument. À Rosny-sous-Bois, absolument. Et merci Adil pour l'invitation.
J'ai oublié Rosny ?
Oui.
Tu dis quoi ?
Rien.
Ah, j'ai arrêté. Quand j'ai pris, j'avais dit autre chose.
Je précisais.
Ah non,
ça
veut dire quoi, d'accord.
Non, vous êtes arrivé. Ah,
j'ai droit à une clochette.
Bobigny, ailleurs,
j'ai droit à une clochette. Non, je sais bien que c'est Rosny sous bois. Merci, Ménard.
Merci, Adil.
À la réalisation, c'était, Anthony. Merci aux nombreux auditeurs. Parce que vous êtes grave, de plus en plus nombreux, évidemment, à nous suivre chaque soir de 18h à 19h30. Time Sport et son équipe, Bilal Nenman. Eh bien, c'est la reprise des horaires de 20h à 21h. Ensuite, Vanessa, à partir de 21h. Merci, messieurs. À demain, vous le savez. On remet ça avec autant de plaisir, surtout. Mais surtout, c'est quoi ?
On ne lâche rien.
On ne lâche rien, messieurs. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.